On part pour le sud d'Israël, précisément pour la ville de Rehovot, ou pour un petit kibbutz qui est juste à côté, qui s'appelle Yad Brenner, je crois. Et on y retrouve Marquis Lévy. Marquis, bonsoir.
Bonsoir.
Marquis, vous, en fait, vous êtes du kibbutz Zikim. Votre kibbutz est à la bordure, à quelques encablures de la bande de Gaza. Il fait partie de ces quelques petits kibbutzim. Maintenant, on connaît tous leurs noms, qu'on a découvert d'ailleurs avant le 7 octobre. Moi, je ne connaissais pas Kfar Aza. Ces petits kibbutz qui sont autour de la bande de Gaza et qui sont devenus aujourd'hui des villes symboles de tragédie pour nous tous. Vous, par exemple, comment ça s'est passé à Zikim? Je crois que vous avez des commandos qui sont venus par la mer. Racontez-nous pour Zikim, par rapport à Zikim.
Disons que, effectivement, il y a eu une unité de terroristes du Hamas qui sont venus par la mer et qui, une partie d'entre eux, ont déjà été éliminés sur la mer par, j'imagine, des hélicoptères ou par l'armée, enfin. Quand ils sont arrivés sur la plage, ils étaient la moitié de ce qu'ils étaient au départ. Et entre la mer et Zikim, et toi tu connais bien cette région, Bernard, il y a une base militaire où une partie a été aussi, ils sont rentrés en guerre avec une partie des soldats qui étaient là-bas, et sont arrivés à Zikim, 8 à 9 terroristes du Hamas, où on a eu la chance que l'unité
d'intervention.
D'émergence, vu d'intervention, on appelle ça en hébreu kitat konenout. On réagit très rapidement et ils ont compris très vite que c'était des gens du Hamas parce qu'ils étaient avec un jeep de l'armée qu'ils avaient pris dans la base militaire et des uniformes de Tzahal, de l'armée. Alors au départ, ce n'était pas clair que c'était une attaque du Hamas jusqu'au moment où ils ont essayé de tirer un RPG et alors les gens de l'unité ont compris que c'était du Hamas. Ça s'est développé une petite bataille et on a eu la chance d'en tuer quelques-uns et les autres ont continué, ils se sont enfuis, enfin, ce qui veut dire que mon kibbutz a été sauvé. Voilà, ça c'est le plus important puisque nous dans le kibbutz on était renfermés dans nos chambres de sécurité. Moi, dans mon cas, avec ma femme et deux de nos petits-enfants, un de 4 ans et demi, un de 1 an et demi, pendant 4-5 heures, que tu reçois seulement un avis par le téléphone qui te dit ne pas sortir, fermer la porte de la chambre de sécurité, etc. Tu entends des tirs, mais tu ne sais pas ce qui se passe. C'est effectivement 4-5 heures très très difficiles, mais je ne les compare pas à la situation des kibbutzim où ils sont arrivés à rentrer et les images, j'imagine par la presse, vous avez eu un peu d'informations et même des images sur ce qui s'est passé dans les kibbutzim où ils sont rentrés.
Donc vous, vraiment, voilà. Donc vous, c'est... C'est presque un miracle. Vous allez me dire non, c'est pas un miracle, c'est qu'on s'était préparé. Mais vous, voilà.
C'est beaucoup de chance. J'aime pas le mot miracle, ça amène à un monde que je n'appartiens pas, comme tu me connais. Je dis c'est beaucoup de chance. Premier, que la moitié de l'unité palestinienne a été tuée sur mer. La base qui est arrivée à occuper une partie sont arrivés chez nous, 8 à 9.
Alors qu'ils auraient pu être une trentaine.
Exactement. Par exemple, au kibbutz Niroz, qui, comme tu as bien dit, sont devenus fameux, malheureusement, une partie de ces kibbutzim, ou Be'eri, ou Kfar Aza, il y a eu autour de 80-100 Palestiniens qui sont rentrés. Alors, logiquement, ça serait passé une autre chose. Mais comme ils étaient 8 ou 9, on a pu affronter cette menace, si tu veux, et réussir, sans doute.
Mais même et puis vous avez, excusez-moi, de la chance que la kitat konenout elle fonctionne, parce qu'on a découvert on a oublié dans d'autres endroits, on a oublié la kitat konenout, il y a pas.
Oui, et sans doute il y a eu dans d'autres places où il manquait d'armes, les gens n'y étaient pas. notre kitat konenout a fonctionné d'une manière remarquable, vraiment, elle nous a sauvés, elle nous a sauvés. Je ne veux même pas imaginer ce qui se serait passé s'il rentrait dedans, parce que nous étions des civils, après une nuit de Simchat Torah, comme tu sais très bien, le vendredi soir, c'était la fin de la fête de Sukkot, dans tous les kibboutzim, il y avait des fêtes, même chez nous, c'est pour ça que mes deux petits-enfants étaient chez moi, parce que leurs parents avaient participé de la fête le soir de Simchat Torah. Alors, tu peux imaginer que ça pouvait être un désastre. Je ne veux même pas penser à ça. Alors, voilà. Mais sans doute, il y a des dégâts, puisque les missiles ont continué à tomber. Il y a eu plein de missiles lancés à toutes les régions de la ceinture de Gaza. Et bon, et sans doute, tout ça, ça a un prix très fort à payer, qu'on est en train de le payer maintenant, sans doute.
Alors, vous sortez. Je sais que Zikim, où j'ai eu la chance d'aller, c'est un kibboutz, on a envie de dire un petit village, mais c'est un kibboutz, les gens voient très bien ce que c'est. Extraordinairement paisible, au bout d'Israël, au bord de mer, il y a la mer de Zikim.
Ouais.
Et vous sortez, Marquis, et vous découvrez l'ampleur du désastre.
Voilà, et avant tout, quand on sort de la chambre de sécurité, au bout de 4-5 heures, on nous dit clairement qu'il ne faut pas sortir de la maison, parce qu'on ne savait pas si quand même quelqu'un ne s'est pas infiltré ou allait retourner plus tard. Alors pendant toute la journée du samedi, on était en fait enfermés chez nous, sans pouvoir sortir.
Mais là, vous commencez à discuter avec les WhatsApp, vous parlez avec les gens des kibboutzim d'à côté, de Kfar Aza. Pardon, vous connaissez des gens de Kfar Aza. Quand est-ce que vous découvrez...
Tu sais très bien qu'on connaît...
La télévision, qui c'est qui vous fait découvrir l'ampleur du désastre à côté duquel vous êtes passé?
Surtout par la télévision, les nouvelles commencent à venir et on commence à comprendre la dimension du désastre. À part ça, nous, on connaît des gens. Tu sais que moi, voilà, j'ai une fonction dans le mouvement kibboutzique dans le passé. Alors, je connais pas mal de personnes, des personnes que même toi, tu les connais. Mmh. Alors, on a commencé à entendre les gens qu'on ne les trouvait pas. Au début, tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Après, on dit peut-être qu'ils sont des otages à Gaza, parce qu'on a commencé à entendre qu'ils avaient pris un grand nombre d'otages. Au début, les premiers deux jours, on ne savait pas exactement. Peu à peu, les choses vont commencer à sortir, et là, on commence à comprendre la dimension. Surtout aussi avec cette fameuse fête qu'il y avait à côté du kibboutz Re'im, dans la fête de la nature, c'est pas exactement... Vous avez entendu plein de jeunes dont aujourd'hui on sait que plus de 350 morts, il y a eu tous des jeunes. Il y a 40 qui sont des otages, des blessés. Ça, c'était une fête où la grande majorité, c'était des jeunes qui ont été assassinés d'une manière barbare. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Il y avait des jeunes de Zikim? Il y avait des jeunes de Zikim qui étaient allés faire la fête?
Non, ils n'étaient pas. Non. On a grâce. J'allais dire même grâce à Dieu, tu allais penser mal de moi. Alors, effectivement. Mais de n'importe quelle manière, il n'y avait pas de gens de Zikim. Mais je connais pas mal de gens des kibboutzim à côté, des gens que j'ai travaillé avec eux, que ma femme travaille, que ma femme est psychologue dans la région. Elle connaît pas mal de personnes. Je peux te dire que dans les dernières semaines, une ou deux fois par semaine, on est ou dans un enterrement, ou dans la découverte de la Matseva. Enfin, malheureusement, on doit affronter cette tragédie qui nous touche à tous, hein, qui nous touche à tous.
Mais non, mais à tous. D'abord, c'est vrai que c'est pas une découverte, mais c'est quelque chose qu'on a constaté. Ça touche tous les Juifs qui ont une identité juive qui est importante pour eux, mais disons tous les Juifs. À travers le monde, il y a eu Amechad, ça c'est sûr. Mais moins que vous quand même, Marquis. Nous, on n'est pas de Zikim. Donc je voudrais savoir, là, vous avez été évacué, Notamment parce que l'armée utilise vos maisons comme une base militaire, en fait, pour une base
arrière. Avant tout, on était à, tu sais quoi, Zikim, 4 jours après, il y a eu de nouveau
un commando après le 7 octobre.
Exactement,
tout à fait.
Voilà, je crois que c'était ou le 11 ou le 12, il y a eu un commando qu'on ne sait pas s'il a été infiltré plus tard ou ce sont des gens qui se sont cachés. Enfin, à Zikim, on a été évacué parce que c'était dangereux d'y rester.
Mais c'est ça, justement, c'est ça ma question. Vous, ouais. Vous avez vécu toute votre vie à Zikim. Vous avez même ouais. été le responsable de tout Zikim, puis après responsable de tout le kibbutz Arti. Donc c'est vraiment c'est toute votre vie. Vous avez été chaliach ouais. à Paris. Mais ouais. vous n'avez jamais imaginé une chose comme ça, j'imagine. Comment
jamais.
Est-ce que. Jamais.
Jamais.
Comment c'est vous que... avez vécu. Par exemple, vous sentez l'envie ou la capacité de retourner vivre à Zikim ou vous dites à l'armée, on s'excuse, nous on va chercher un endroit ailleurs pour vivre?
Tu me fais des questions très difficiles, ah. c'est pas gentil de ta part. Ah. Mais bon, mais si.
Mais c'est les vraies questions.
Avant tout, je veux dire la chose suivante. C'est pas que j'ai vécu. Je vis encore une situation très difficile. C'est très important de le dire. C'est pas quelque chose que j'ai déjà les réponses. J'ai plus de questions que des réponses. C'est le moment des questions. Avant tout, moi, j'ai 3 fils. Qui vivent à Zikim, et tu le sais, et sans doute avec des petits-enfants, et eux commencent à se demander est-ce qu'on va retourner pour être dans la même situation qu'on était avant le 7 octobre. Alors, les réponses ne sont pas faciles, parce que même le gouvernement ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer à l'après-guerre. Il y a une très grande discussion au niveau politique. Je ne veux pas rentrer dans ces discussions, mais je dois le dire, qu'en ce moment-là, il n'y a pas une vision claire de qu'est-ce qu'on veut dans l'après-guerre. Et ça, c'est un des gros problèmes. Moi, personnellement, j'ai 75 ans, j'ai construit ma vie en Israël, à Zikim. J'imagine que je vais retourner à Zikim vivre. Mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, ni les miens, et même d'autres jeunes, hein, pas seulement mes enfants, mes fils, et aussi dans les autres kibbutzim. Il y a des kibbutzim même qui ne pourront pas rentrer après la guerre parce que la moitié du kibbutz a été détruit. Alors ils devront passer 1 ou 2 ans dans un autre lieu. La situation n'est pas facile. Comme j'ai dit, il y a plus de questions que de réponses. Il y a une très forte envie de retourner et de pas quitter le Otef Aza, qui est une région très belle, qui a été développée, mais quand même, en fin de compte, les menaces à ta vie sont pas moins importantes que tout le reste.
Marki Lévy du kibbutz Zikim, merci pour ce témoignage en direct sur Radio Shalom. Pour ceux qui veulent aider Zikim, envoyez-nous un message en privé sur la page Facebook de Radio Shalom ou appelez-nous au 01 43 36 04 06 car je sais que beaucoup de gens se mobilisent sur des opérations locales comme ça. Donc, par exemple, moi, j'ai envie d'aider Zikim. On me demande tous les jours. J'ai envie de faire ça. Ceux qui veulent participer à quelque chose pour Zikim ou ma page à moi, Facebook, comme ils veulent, ou celle de Radio Shalom, ou 01 43 36 04 06. Marki Lévy, merci. C'était avec beaucoup d'émotion que je vous ai
reçu. Et à la prochaine.
À la prochaine.